Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. À la une ce soir, l'intervention d'Emmanuel Macron. Le président français a annoncé un assouplissement du confinement. À partir de samedi, ainsi, les commerces vont pouvoir rouvrir et les Français pourront passer les fêtes de fin d'année en famille. Qui est Anthony Blinken dans cette édition ? Le portrait du futur secrétaire d'État américain annoncé par Joe Biden. Et puis en sport, la mort de Christophe Dominici, ancien international français de rugby. Il est décédé brutalement dans un parc près de Paris. Il avait 48 ans.
Le journal en français facile.
Emmanuel Macron s'est donc exprimé ce soir devant les Français, près d'un mois après sa dernière intervention. Le chef de l'État a fixé le cap des prochaines semaines face à la pandémie de coronavirus. À retenir donc deux décisions importantes qui vont entrer en vigueur samedi. D'abord, la réouverture de tous les commerces dans le cadre d'un protocole sanitaire strict. Pour se déplacer, il faudra toujours être muni d'une attestation, mais cette attestation va évoluer. Désormais, les déplacements pour une promenade seront permis dans un rayon de 20 km et pour une durée de 3 heures contre, jusque-là, 1 km et 1 heure. Une deuxième phase est ensuite prévue à partir du 15 décembre avec la levée du confinement, si le taux de contamination au coronavirus le permet. Mais à la place du confinement, un couvre-feu sera mis en place la nuit, excepté pour les soirées du 24 et du 31 décembre. Pour les fêtes de fin d'année, donc, les familles seront autorisées à se retrouver. Mais le président en appelle à la plus grande responsabilité. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron.
Durant les congés de fin d'année, nous allons tous retrouver nos proches. Nous nous en réjouissons évidemment, et tous dans ces moments-là. Nous sommes tentés de baisser la garde, de relâcher la pression. Mais si nous ne voulons pas subir demain un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance. Protégeons nos proches, en particulier les plus vulnérables. Portons le masque, y compris à la maison, lorsque nous sommes avec des amis ou avec des parents qui n'habitent pas au quotidien avec nous. Veillons à ne pas être trop nombreux à table. Appliquons scrupuleusement tous les gestes barrières. Se laver les mains, respecter les distances, aérer toutes les heures les pièces. C'est du bon sens et de l'exigence, mais chacun de nous a entre ses mains une partie de la solution.
Emmanuel Macron, donc ce soir, a retenu également le président français, a affirmé que des vaccins contre le coronavirus devraient être disponibles dès la fin du mois de décembre. Les premières vaccinations seront proposées aux plus fragiles, sans notion d'obligation. Et puis, face à la crise économique, Emmanuel Macron a annoncé que les entreprises qui resteront fermées administrativement dans les prochaines semaines pourront obtenir une aide correspondant à 20% de leur chiffre d'affaires annuel. Toutes ces annonces, enfin, seront détaillées demain matin lors d'une conférence de presse du Premier ministre Jean Castex. Également dans l'actualité liée à la pandémie de coronavirus, le Royaume-Uni qui décide, comme la France, d'autoriser les réunions de famille à Noël. Les Britanniques qui s'apprêtent, eux aussi, à voir leur confinement allégé. Et puis la course au vaccin qui se précise. Souvenez-vous de la société Moderna qui a annoncé la semaine dernière un vaccin efficace à 95% selon les résultats de l'essai clinique. Depuis, Moderna mettait la pression aux Européens pour qu'ils achètent des doses de vaccins. C'est chose faite. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé aujourd'hui un contrat avec Moderna pour fournir jusqu'à 160 millions de doses de vaccins contre le Covid-19. Le vaccin qui devrait bientôt devenir la norme. Et certains anticipent cela, c'est-à-dire qu'ils devancent le moment où le vaccin sera au point. C'est le cas de la compagnie aérienne australienne Qantas qui annonce que d'ici quelques mois, elle exigera que ses passagers présentent un certificat de vaccination pour pouvoir embarquer à bord d'un avion à destination de l'étranger. Son président pense que cette mesure pourrait très vite se généraliser dans le secteur du transport aérien. Correspondance à Sydney de Grégory Pless.
Interdiction d'embarquer à moins d'être vacciné. C'est l'annonce choc faite hier soir par le patron de la compagnie aérienne Qantas, qui exigera donc un certificat de vaccination contre le Covid dès qu'il sera accessible au grand public pour tous ses vols internationaux. La compagnie au kangourou ferait-elle du zèle ? À en croire son PDG, pas du tout. Dans une interview donnée lundi soir à la télévision australienne, il pense au contraire que toutes les compagnies aériennes formuleront bientôt la même exigence.
J'ai discuté avec mes collègues d'autres compagnies aériennes à travers le monde et je pense que ça va devenir une mesure généralisée. On regarde s'il est possible d'avoir un genre de passeport électronique de vaccination, passeport qui certifierait quel type de vaccin vous avez reçu et s'il est accepté par le pays dans lequel vous vous rendez.
Mais au final, pas sûr que Qantas soit la première à mettre en œuvre cette mesure. Les frontières de l'Australie sont fermées depuis le mois de mars, les étrangers n'ont pas le droit de venir et les Australiens n'ont pas le droit de partir. Un régime strict qui a permis à l'Australie d'être largement épargnée par la pandémie et qui devrait donc perdurer pendant encore une bonne partie de l'année 2021. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Aux États-Unis, Joe Biden a désormais les mains libres pour préparer son arrivée à la Maison-Blanche. Même s'il ne reconnaît toujours pas sa défaite, le président sortant, Donald Trump, a donné son feu vert au processus de transition, c'est-à-dire qu'il a validé le processus qui va vers la mise en place de l'administration Biden. Et premier acte de cette future administration, la présentation officielle cet après-midi des grands noms autour de Joe Biden, à commencer par Anthony Blinken. Nous vous annoncions ce nom hier soir dans le journal En français facile. Il s'agit du futur secrétaire d'État américain. Il n'est pas connu du grand public. Anthony Blinken était secrétaire d'État adjoint sous la présidence de Barack Obama. Son portrait avec Oriane Verdier.
Ce n'est un secret pour personne. Le secrétaire d'État aura beaucoup à faire pour réaffirmer les liens de son pays avec les alliés traditionnels des États-Unis. Rejoindre notamment les accords internationaux abandonnés par la précédente administration, tels que celui de Paris sur le climat ou encore celui sur le nucléaire iranien. Pour ce faire, il devrait pouvoir compter à ses côtés sur Jake Sullivan, qui prendra la place de conseiller à la sécurité nationale. Tous deux sont amis et partagent des visions communes. Ils ont notamment déjà attaqué ensemble la devise America First du président Donald Trump, qui, de leur point de vue, ne fait qu'isoler le pays. Aujourd'hui, Tony Blinken prône au contraire l'union, afin notamment de rivaliser avec la Chine. Il a grandi en France aux côtés de son beau-père aux origines polonaises. Ce dernier est rescapé de la Shoah et a été sauvé par un tank américain après s'être enfui du camp de Dachau. L'Amérique, pays d'accueil au rôle extraordinaire, c'est ce pays avec lequel j'ai grandi, expliquait Anthony Blinken en 2017.
Anthony Blinken, donc futur secrétaire d'État américain, et sa première déclaration ce soir, Anthony Blinken appelle à une coopération internationale. Nous ne pouvons pas résoudre seuls les problèmes du monde, nous devons travailler avec les autres pays. Il s'exprimait depuis le Delaware aux États-Unis où Joe Biden a présenté sa future équipe. Enfin en sport, c'est un choc pour le rugby français. La mort de Christophe Dominici, décédé brutalement à l'âge de 48 ans dans un parc près de Paris. Christophe Dominici, ancien international, il aura marqué l'histoire du 15 de France. Antoine Grenier.
De ses 67 sélections, il restera évidemment cet essai mémorable en demi-finale de la Coupe du Monde 99 face à la Nouvelle-Zélande. Et c'est typique de Dominici, tout en opportunisme et en rapidité, principale qualité de l'ailier du 15 de France et du Stade français. Avec le club parisien, où il a joué de 97 à 2008, Dominici glane 5 titres de champion de France. Son style imprévisible sur le terrain en fait l'un des symboles les plus éclatants des années Guazzini. Le 15 de France lui apportera la reconnaissance internationale avec cette finale de Coupe du Monde en 99, perdu face à l'Australie, mais aussi 4 victoires, dont 2 grands chelems dans le 6 Nations. Auteur de 25 essais en bleu, le natif de Toulon arrête finalement sa carrière en 2008. Depuis son retrait des terrains et après une expérience d'entraîneur écourtée au Stade français, il était devenu consultant pour différents médias. Christophe Dominici s'était également impliqué aux côtés d'hommes d'affaires émiriens dans le rachat du club de Béziers. Transaction finalement retoquée en juillet dernier par la DNACG, l'organe de contrôle financier de la Ligue de rugby. Un échec qui avait profondément affecté l'ancien international. Dominici avait alors décidé de prendre du recul. C'était quelques mois à peine avant son décès à l'âge de 48 ans.
Et les réactions ce soir sont très nombreuses. Donc après la mort de Christophe Dominici, Roxana Maracineanu, ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, écrit sur Twitter « Quelle tristesse ! Christophe Dominici était un immense joueur, un artiste. » Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Il est 21h10 ici à Paris, une heure de moins en temps universel.